France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est une histoire d'apprentissage, celle d'un Zébulon, comme l'appellent ses parents, qui à 9 ans décide qu'il va danser de Nantes à Nanterre, du conservatoire à l'école de danse de l'Opéra de Paris, où il arrive à 13 ans, puis l'admission dans le corps de ballet, les années dans la compagnie jusqu'à ce jour du 3 mars 2017, où il est nommé Étoile dans Danser, livre écrit en collaboration avec Caroline de Bodina et édité par Artaud. Vous vous racontez, Hugo Marchand, bonjour.
Bonjour.
Votre parcours, vos doutes, la peur, les miroirs, le travail et ce métier de danseur, des artistes qui ne laissent ni film, écrivez-vous, ni toile, ni texte, ni partition. Jusqu'à 9h, on va s'arrêter sur certains moments de ce récit passionnant, très émouvant. On le referme avec la larme à l'œil. Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque, loin du Palais Garnier, une autre danse. C'était il y a quelques jours seulement, dont vous vous êtes fait l'écho sur les réseaux sociaux, avec une autre étoile, Dorothée Gilbert. C'était à l'hôpital Necker. De quoi s'agit-il ?
Avec l'association What Dance Can Do, qui est une association qui utilise la danse à des fins humaine. On est allé danser à l'hôpital Necker avec Dorothée. C'est pas la première fois que j'y vais. On était venu faire des petits spectacles dans un petit auditorium qu'ils ont à l'hôpital. L'auditorium est fermé à cause du coronavirus et depuis donc cette saison, on y va au chevet des enfants pour passer un moment avec eux. Donc c'est un moment de partage assez intense souvent. Et puis je pense que ça fait aussi bien du bien aux enfants, aux soignants, mais aussi aux parents qui accompagnent les enfants dans ces moments difficiles.
Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces enfants ?
Bah souvent, ils sont assez émerveillés. Surtout, ils nous disent des grands sourires. Et ça, c'est important. En fait, il n'y a pas beaucoup de mots, mais il y a des petites étoiles dans les yeux. Il y a des grands sourires. Et pour nous, c'est très gratifiant.
Ce livre, Danser, est-ce qu'il ne s'adresse pas aussi, d'une certaine façon, aux enfants, aux adolescents, ou en tout cas ceux qui voudraient aussi danser ? En le lisant, je me disais, est-ce que ce n'est pas le livre que vous-même, vous auriez aimé lire à un certain âge ?
Je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu participer à ce projet. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu l'école de danse et l'adolescence comme un moment assez délicat, un peu difficile, surtout dans cet apprentissage de la danse qui était très intense. Et c'est vrai que si j'avais eu un livre où j'entendais quelqu'un de plus âgé que moi me raconter ses doutes, me faire part de sa vulnérabilité, j'aurais été rassuré. En fait, j'ai voulu parler de l'autre côté un peu du miroir, des paillettes de ce métier que d'être danseur, justement parce que je voulais montrer les failles, montrer les difficultés pour qu'on se sente moins seul. C'était une manière de fédérer. Je trouve que quand on arrive à partager au-delà des choses belles, on arrive à se rassurer les uns les autres.
Et de miroir, il en est question d'ailleurs souvent dans ce livre. Hugo Marchand, voici la première musique ce matin. C'est Ophélie Gaillard qui joue Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
La gigue de la suite en sol majeur de Jean-Sébastien Bach avec Ophélie Gaillard au violoncelle. Notre invité ce matin est Hugo Marchand, danseur étoile à l'Opéra de Paris, qui vient de faire paraître chez Artaud, danser tout simplement à l'infinitif en collaboration avec Caroline de Bottina, un récit d'apprentissage, le parcours de ce métier de danseur. Hugo Marchand, cette musique qu'on vient d'écouter, que vous évoque-t-elle ?
C'est une musique qui est très importante pour moi parce que c'est la musique des retours à chaque fois. C'est une pièce qui a été chorégraphiée par Jérôme Robbins qui s'appelle Suite of Dances, donc sur les suites de Bach. Et là, j'avais la chance de pouvoir être accompagné de Ophélie Gaillard avec qui j'ai eu une véritable rencontre artistique à l'automne. Donc j'ai pu danser avec elle sur le proscenium qu'on avait mis en place à l'Opéra Garnier parce que nos deux théâtres étaient en travaux au mois d'octobre, et j'ai adoré être accompagné par sa musique, et c'était vraiment un pas de trois. Donc c'était avec elle et sur violoncelle, donc c'était un vrai partage. Et la première fois que j'ai dansé cette pièce, c'était avec Sonia Vidor-Atherton sur la scène de l'Opéra Garnier, et je revenais donc de 4 mois de blessure où je m'étais fracturé le pied. Donc à chaque fois que j'ai dansé cette pièce, il y avait quelque chose de très salutaire où en fait je retrouvais mon élément, et c'était comme une renaissance à chaque fois que je suis retourné avec cette pièce là ça me faisait pleurer en fait de bonheur.
Parce que à l'automne, quand vous avez dansé sur ces Suite of Dances, c'était la première fois depuis des mois. Il y avait eu l'hiver dernier les grèves, et puis ensuite la pandémie, et donc il y a eu ce moment-là, cet moment un peu suspendu que depuis on a perdu.
C'est-à-dire qu'il y a eu les grèves au mois de décembre. On avait quand même eu l'occasion de pouvoir danser Gisèle à l'Opéra Garnier au mois de janvier-février. On est parti à Tokyo pour danser Gisèle et Onegin. Et on est rentré en mars et on a été confiné. Donc c'est vrai que c'était mes premiers pas de retour à l'opéra, et j'étais extrêmement ému. Le public était au rendez-vous et c'était un très beau moment.
Depuis, il y a eu la Bayadère, mais pour les caméras, pour les écrans, l'opéra chez soi, cette nouvelle plateforme qui a été lancée. Vous êtes dans quel état psychique de manque de danse aujourd'hui, Hugo Marchand ?
Je dois dire que ça devient très difficile parce que la danse, c'est le moteur de ma vie depuis que je suis un petit enfant. Donc de pas pouvoir être sur une scène avec ce rythme dingue qu'on a à l'Opéra de Paris parce qu'on enchaîne les productions et on passe d'un projet passionnant à un autre projet passionnant, ça commence à avoir un impact fort sur même ma vie privée, parce qu'en fait c'est des rythmes de vie qu'on a depuis si longtemps et qui sont cassés là avec cette pandémie. Donc malgré tout, les captations qu'on fait avec l'opéra sont super parce que ça garde un lien avec le public et on continue de faire un peu vivre la culture, vivre la danse, mais faire une captation en salle vide, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très stressant aussi parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui nous regardent, mais on les voit pas, on les sent pas et on n'a pas de partage véritable avec eux, donc c'est étonnant.
En ce moment, vous répétez ?
En ce moment, je répète Le Parc, une pièce de Angelin Prège-Locage sur la musique de Mozart, avec Dorothée Gilbert d'ailleurs. Donc on est censé danser ça en mars-avril. Je ne sais pas si on pourra le faire.
Ce livre qui vient de paraître, comment il est né ? Vous avez 28 ans, il a mis plusieurs années, si j'ai bien compris, à naître. Est-ce qu'il y a un côté thérapie ?
Alors déjà, j'ai 27 ans, alors ne me vieillissez pas, je trouve que le temps passe déjà si vite.
Pardon.
Non, c'est étonnant. En fait, ce projet m'a été proposé par les éditions Artaud quand j'avais 23 ans. Donc, c'est un projet qui a pris du temps à se mettre en place. J'étais moi-même assez étonné qu'on me propose ce projet aussi jeune. Et donc, j'ai quand même décidé de rencontrer Valérie Dumège avec des éditions Artaud pour parler de ce projet. Et ce qui l'intéressait, c'était d'avoir la voix d'un jeune, d'entendre la voix d'un jeune sur un parcours qui était d'apprendre un métier passion à un âge où, en fait, on a juste envie de suivre sa route de petit garçon et de se fondre dans la masse. Donc c'était intéressant pour moi de voir ça sous le prisme de l'apprentissage et le prisme de l'école de l'acceptation. Donc j'avais très envie de faire ce projet avec Caroline de Bodina, que j'avais rencontrée 6 mois auparavant pour un portrait pour Libération. Et Caroline, ne connaissant pas du tout la danse, c'était essentiel pour moi, c'était une condition sine qua non. C'était parfait, c'était un super match en fait entre nous. Donc ce livre, j'avais envie qu'il puisse s'adresser à d'autres corps de métier, à d'autres gens qui ne connaissent pas la danse. Donc la danse est évidemment présente partout dans le livre, mais ça parle d'autre chose que de la danse.
Mais c'est pas danseur, danseur pour danseur. Un apprentissage et l'acceptation de soi, c'est quelque chose qui revient tout au long jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de ce miroir, mais ce qu'on passe sa vie face à un miroir quand on est danseur à la barre. Ouais. Et c'est l'acceptation de soi, de son regard, de son physique, de son corps différent. Vous mesurez 1m92, vous êtes un grand, très grand danseur.
Bah, c'est-à-dire que moi, ouais, c'est un véritable travail d'introspection, la danse. À travers les personnages, à travers les émotions des personnages, on va rechercher nous-mêmes nos propres émotions, essayer de les comprendre, de les analyser. Le travail au quotidien, on est quand même moulé dans des affaires de danse, dans des vêtements de danse, face à un miroir plusieurs heures dans la journée. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça. Évidemment, c'est très difficile parce qu'il faut accepter son corps, il faut essayer de se trouver de se trouver beau pour essayer de supporter son image en fait toute la journée. Et c'est pas simple. La plupart des gens sont habillés, se voient pas toute la journée face à leur propre image, à leur reflet, et c'est un apprentissage qui est compliqué. C'est compliqué de s'aimer physiquement depuis le plus jeune âge en fait. C'est quelque chose que voilà, depuis 9 ans, moi je me vois dans la glace 5 heures par jour et quelquefois c'est fatigant quoi. Enfin,
vous commentez aussi, vous dites à un moment donné, j'ai pu susciter l'exaspération sur ces années à l'école, puisqu'il y a aussi à 13 ans, on arrive à Nanterre, à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Il y en a qui sont là depuis plusieurs années, il faut rentrer là-dedans. Il y a aussi l'adolescence, il y a toutes les questions que vous évoquez que peuvent se poser un adolescent. Et puis, le regard des autres, comment on s'insère dans le groupe. Vous parlez aussi de vos parents, de votre rapport à votre frère, là aussi, c'est pas toujours simple. Ils ont été extrêmement bienveillants. Vous n'avez pas toujours été très tendre avec eux. Il y a tout ça. Il y a ce regard-là d'un danseur de 27 ans sur tout ça.
C'est-à-dire que partir en fait si jeune de la maison, moi je suis parti à l'âge de 13 ans, c'est un déchirement, que ce soit pour l'enfant ou pour les parents. Après, moi je savais que je partais pour une promesse de liberté et de bonheur. Donc j'avais pas peur. Mais c'est quand même un parcours dingue de s'échapper si vite de la maison. Moi, j'avais ce cocon avec mon grand frère, mes deux parents, des repas partagés où on débattait et on échangeait énormément sur la vie et sur la société. Et de se retrouver un peu tout seul dans une école en banlieue parisienne, ça a été un choc. Donc la première année, je l'ai pas très bien vécue parce que je pense que j'étais trop tendu et donc trop guindé. Et je pense que mon image n'était pas très agréable à l'école. Mais au bout d'un an, j'ai réussi à bien m'intégrer. Les autres élèves étaient arrivés plus jeunes que moi. Donc, il y avait déjà des groupes qui s'étaient formés. Je suis arrivé un peu en cours de route.
Un extrait de la musique de Manon, le ballet, la musique de Jules Massenet qui vous évoque Hugo Marchand. J'imagine aussi ici des souvenirs précis qui sont évoqués dans le livre Danser.
Bien sûr, ouais. Manon, ça reste pour moi un des moments phares de la découverte des personnages et des rôles d'interprétation. Et puis c'est vrai que cette musique de Massenet, elle est tellement belle et forte. Là, c'est l'extrait dans le deuxième acte, donc d'un pas de deux entre Manon et Desgrieux. Et c'est vrai que dès qu'il y a les premières notes qui commencent, j'ai toute cette chorégraphie qui se défile dans ma tête et ces souvenirs, ces sensations de scène, ça fait du bien parce que c'est comme un peu une drogue que je pourrais prendre en dépit d'être sur scène vraiment. Enfin.
Et puis un coup de foudre artistique qui est raconté dans le livre, celui avec Dorothée Gilbert et ce moment que vous décrivez qui ne s'est pas encore reproduit, un alignement de planètes, et même si vous ne l'avez vécu qu'une fois, au moins vous l'aurez vécu. C'est, les mots sont très bien trouvés dans le livre pour raconter ce moment suspendu.
Bah c'est vrai que ce spectacle reste pour moi un des plus beaux moments artistiquement que j'ai vécu. J'étais jeune, puisque j'avais 21 ans, et Dorothée 31, puisqu'on a 10 ans de différence. Et à l'époque, Dorothée n'était pas forcément emballée pour danser avec moi, parce que j'étais pas danseur étoile, j'étais sujet, elle ne me connaissait pas. Mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 répétitions, il y a eu une véritable évidence, en fait, dans notre connexion et dans notre manière de travailler aussi, parce qu'on a la même vision du travail, parce que les gens voient souvent que le spectacle, qui est en fait 2-3 heures sur une scène, mais il y a quand même 1 mois, 2 mois de travail en amont, et c'est des relations humaines, il faut que ça se passe bien aussi pendant ces relations de travail. C'est vrai que ce spectacle, pour moi, reste un moment un peu parfait. Non pas que le spectacle était parfait, il était loin d'être parfait, mais moi ce que j'ai ressenti, le plaisir que j'ai ressenti dans ce spectacle, c'était au-delà de tout ce que j'avais pu espérer.
Et puis on voit que les choses se font vraiment au dernier moment. Enfin, les distributions peuvent changer la veille, le jour, quelques minutes avant, même en cas de blessure. Il y a aussi ce côté totalement volatile, fugace de ce métier.
Bah, c'est-à-dire que l'opéra doit continuer de tourner. Donc quand il y a un danseur qui se blesse, il faut le remplacer. C'est un peu les chaises musicales. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer à faire marcher la maison quand il y a un spectacle de prévu. Mais eh bien, il faut que le spectacle ait lieu. Donc si un danseur étoile est malade, c'est blessé, il y a des remplaçants qui rentrent en jeu et qui sautent dans les rôles.
L'opéra, c'est ce lieu, c'est votre métier, c'est aussi une institution. Vous parlez de l'institution, l'opéra reste plus chêne que roseau. Vous évoquez les réformes de l'opéra. C'était il y a quelques jours, simplement, ce rapport qui a été remis sur la diversité, qui prône notamment une ouverture de l'école de danse. On a le sentiment, quand on vous lit, que vous partagez les conclusions de ce rapport, Hugo Marchand.
Oui, moi j'ai signé ce manifeste pour la diversité à l'opéra. Le rapport a été publié là il y a quelques jours enfin sur le site de l'opéra. C'est quelque chose que je pense très important dans la mesure où il faut que l'opéra soit à l'image de la société dans laquelle on vit. Et il y a encore quelques progrès, même si je pense que l'opéra est moderne et n'est plus poussiéreux comme on peut l'entendre et entendre encore. Et c'est fatigant de l'entendre parce que l'opéra n'est plus poussiéreux. L'opéra se modernise de plus en plus. Mais il y a encore évidemment des petits ajustements qu'on peut faire. Et ce rapport sur la diversité arrive à point nommé avec une nouvelle génération de danseurs qui ont des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et moi, je trouve que c'est très, très positif pour l'institution.
Ça commence par l'école, de danse?
Je pense que ça devrait commencer par l'école, en effet, parce que je pense qu'il faudrait aller à la source, c'est-à-dire encourager les danseurs noirs métis qui en auraient envie, qui auraient les qualités physiques pour être danseurs, pour de rentrer à l'école de danse. Ne pas penser que la danse classique n'est faite que pour une élite blanche, elle est ouverte aussi à tout le monde.
Nous ne sommes plus prêts à laisser se reproduire les mêmes schémas à endurer ce que nos prédécesseurs ont subi. Des bouts de chou d'à peine 10 ans profondément ébranlés dans leur élan et leur ambition par des phrases assassines. T'es trop gros, t'es vilaine, regarde-toi. Tu as la grâce d'un fer à repasser. Vous l'avez entendu, ça?
Alors moi, j'ai eu la chance quand même d'être dans une direction de la danse qui était différente. Parce que j'ai eu donc Elisabeth Platel en tant que directrice de l'école. Donc déjà, les choses avaient un peu changé. Il y avait une manière de parler aux enfants qui était différente. On entend toujours des phrases un peu maladroites, un peu indélicates. Ce qui est surtout difficile, en fait, c'est d'être critiqué à un âge où on n'est pas à l'aise avec son corps. Quand on critique un travail dans la danse, on critique un corps. On critique un mouvement, on critique un bras, une jambe, un pied. Alors que quand on critique, par exemple, un travail d'écrivain, on va critiquer un livre, des écrits, des phrases. Là, on est critiqué dans sa chair. Et c'est ça qui est, je pense, difficile et qu'il faut apprendre. On n'est pas en train de critiquer sa personne, mais on critique quand même un corps qui est le nôtre. Donc ça, c'est difficile à accepter quand on est un adolescent en plein changement.
La révolution vient aussi de l'intérieur, des danseuses, des danseurs. Enfin, si révolution il y a.
Alors moi, je parlerai pas de révolution. Je pense qu'on est, l'opéra n'est pas en train de faire une révolution. L'opéra évolue avec son temps. Et c'est vrai que l'opéra, c'est 154 danseurs, avec des danseurs qui partent à la retraite tous les ans, à l'âge de 42 ans et 6 mois, et des danseurs qui rentrent à l'âge de 16, 17 ou 18 ans. Donc quand il y a 15 danseurs qui partent à la retraite, il y en a 15 autres qui rentrent. Donc là, il y a eu en fait un grand rajeunissement de la compagnie. Donc évidemment, ça vient de l'intérieur, ça vient d'une volonté de changement interne.
Benjamin Millepied, qui vous a promu, qui a été éphémère directeur de la danse, est-ce qu'il a été, lui, un peu révolutionnaire, d'une certaine façon, ou est-ce qu'il a donné un coup de pied dans la fourmilière? Vous l'évoquez, vous lui rendez hommage à plusieurs reprises dans le livre.
Il a été un peu précurseur de ses idées quand il est arrivé des États-Unis. Ils avaient déjà un peu un temps d'avance. C'est vrai que ça a été un peu chamboulant pour l'opéra, parce que c'est vrai qu'il a voulu faire les choses très vite, très fort. Et l'opéra, c'est quelque chose qui est une institution qui a 350 ans, plus de 350 ans maintenant. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps de faire changer les choses à l'opéra. Mais je crois qu'Aurélie Dupont, la directrice de la danse de l'opéra, l'a compris et donc suit la ligne de Benjamin avec peut-être plus de douceur.
Ça passe aussi par des nouveaux chorégraphes, des nouvelles esthétiques.
Alors évidemment, on essaie de continuer à être moderne et donc d'inviter les derniers chorégraphes qui font des magnifiques choses. Donc là, il y a eu une soirée de création contemporaine à l'automne qui a été mise en place par Aurélie avec 4 chorégraphes. Voilà, on essaie d'être à la fois dans l'héritage des grands ballets classiques et puis dans une modernité plus contemporaine, plus intéressante aussi, je pense, artistiquement pour nous.
Une grande chorégraphe qui enthousiasme depuis quelques années, qui est liée à l'Opéra de Paris, c'est une Canadienne, c'est Crystal Pite, que vous évoquez aussi, Hugo Marchand, dans ce livre, Danser.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec elle dans Body and Soul, une création qu'on a fait en 2019, en début de saison, donc juste avant le coronavirus. Et c'était une très belle rencontre, même si on était très nombreux sur cette création et que on a donc pas vraiment eu de rapport très privilégié avec elle en one-to-one en studio. J'ai quand même pu avoir quelques répétitions avec elle tout seul pour un petit solo. Mais j'ai adoré travailler avec cette dame, ouais. Quelqu'un de très humain.
Devant l'entrée des artistes, mes parents, mon frère, ils savent, je le sens à leur sourire étrange, je n'interprète pas support, soutien, encouragement ou victoire, je les ignore, passe les grilles, la tétanie jusqu'aux phalanges, ils sont dans mon angle mort, encore 5 pas, et je serai face à ces putains de feuilles. Engagé, 3e place, je suis quadrille, je vais bientôt signer mon contrat, cette émotion est marquée en moi au fer, une émotion d'une telle violence, d'une telle force que je ne saurais la revivre, j'ai hurlé, couiné, derrière mes verres fumés, énormément pleuré, le monde autour de moi a vacillé, disparu, s'est dépeuplé, il n'était qu'une feuille, réduit à mon nom sur une ligne, ce monde va s'ouvrir à moi depuis cette feuille, je suis bombardé, transpercé par une foultitude d'émotions, je reste perdu dans le blanc une dizaine de minutes, hagard. C'est Jean, mon frère, qui me sort de cet engourdissement, il me prend dans ses bras, me dit doucement, tu as réussi Hugo, j'ai aimé que ce soit Jean qui me fasse entendre ces mots, mon grand frère que j'ai toujours voulu épater. Dans ce livre, Hugo Marchand, danser, le rôle de la famille est très important et revient jusqu'au bout.
Bah bien sûr, parce que je pense qu'il faut savoir d'où on vient. Et d'où je viens, j'ai eu énormément de chance. Moi, j'aime tellement mes parents. Ils m'aiment tellement. On a tellement de choses à. On a tellement échangé quand j'étais enfant. Encore maintenant, ils m'aident, ils me soutiennent. C'est des lumières. Donc quand je me perds un peu, je sais où regarder. Mon grand frère, pareil, on a eu un cocon familial extrêmement protecteur et qui m'a permis de pas me perdre dans ce parcours qui est quand même assez violent. Donc je leur dois énormément. Je trouve pas les mots et puis je sais pas si je les trouverai un jour, mais je leur suis très reconnaissant.
Aujourd'hui, quels sont vos rêves, de rôle quand on a 27 ans et non pas 28 et qu'on est étoile depuis quasiment 4 ans de l'Opéra de Paris?
Déjà, mon rêve, là, ce serait juste de pouvoir retrouver la scène sans demander de choses trop impossibles. Ça nous manque tellement, c'est tellement compliqué de ne pas pouvoir exulter sur un plateau avec un public. On a une très belle saison en plus cette année, donc on a des très beaux rôles qui arrivent. Là, on a une soirée Roland Petit qui est très prometteuse, et un Roméo et Juliette qu'on devrait danser en juin. Donc si jamais on arrive à réouvrir, je pense que ce sont deux belles promesses de rôles pour les interprètes, les danseurs étoiles. Et notamment un rôle qui me ferait vibrer, ce serait Le Jeune homme et la mort, de Roland Petit, sur une musique de Bach encore, qui est un pas de deux en fait, un solo et un pas de deux d'une quinzaine de minutes. Incroyable, mis en scène par Cocteau, donc ce serait un très beau cadeau de retour.
C'est quoi les musiques de votre cœur, Hugo Marchand?
Ah, c'est difficile de répondre à cette question. À chaque fois, je parle du concerto de Rachmaninoff, le numéro 2 et le numéro 3, parce que c'est des concertos incroyables que j'ai tellement écoutés avec mes parents en partant en vacances dans les voitures, on écoutait ça en boucle, et puis le dimanche matin à la maison, que c'est ancré en moi, et puis ça me touche énormément, ça me rappelle des choses très agréables, c'est extrêmement romantique.
Vous êtes romantique?
Je crois, je pense, oui.
Rêver, danser, Hugo Marchand en collaboration avec Caroline de Bodina, ça vient de paraître chez Artaud. On vous retrouve très vite en vrai sur les scènes de Bastille, de Garnier, et ouais, d'ailleurs aussi, vous aimeriez bien tourner aussi, sortir de l'Opéra de Paris, que l'Opéra de Paris aille partout en France, à Nantes par exemple, chez vous.
Alors c'est vrai qu'on a, j'en parlais juste il y a une demi-heure, on a tellement de grandes tournées magnifiques à Tokyo, à Brisbane, aux États-Unis, mais on tourne très peu en France, et je suis un peu déçu parce que je pense que c'est aussi la mission de l'Opéra de le faire, l'Opéra National de Paris, avec l'argent du contribuable aussi, donc je pense que ce serait un joli retour des choses que de pouvoir offrir de beaux spectacles à tous les Français dans des plus petites villes que Paris et d'aller chercher le public ailleurs. Je pense que ce serait une belle chose que l'Opéra pourrait faire.
Vous savez, monsieur Alexandre Derneff nous écoute le matin, le directeur de l'Opéra de Paris, donc le message d'Hugo Marchand est lancé. Merci beaucoup.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
À réécouter sur francemusique.fr.